Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Comics Weekly, épisode numéro 16. Je suis Steve.
Et je suis Mister René Bunny. Et bonjour à tous les Texans qui nous écoutent toujours.
Semaine du 1er septembre, donc premier arrivage des comics de septembre, logique. Et bah on a quelques numéros 1 quand même.
Oui.
Quelques un one-shot et de la mini-série.
Ouais. Voilà. Bah, et deux bonnes choses quand même.
Deux bonnes choses et de la merde.
Voilà.
Mais qu'est-ce que c'est?
Mais qu'est-ce que c'est? Oui, bah, tout à l'heure, la réponse.
Tout à l'heure, après la pub.
Voilà, un petit suspense. Allez, on va déjà lancer une page de pub. On fait comme les grandes chaînes de télé. On lance la pub 5 secondes après le lancement de l'émission.
Au bout de 10 secondes, nous, on est des fous.
Voilà.
Donc, on va commencer comme d'habitude avec le numéro du podcast. C'est le numéro 16. Bah, je sais plus qui avait commencé la semaine dernière.
Non, mais vas-y, commence.
Ouais, très bien. Bah oui, puisque comme je ne sais pas ce que tu as choisi, ce sera
bah oui, ce sera la surprise. Surprise.
Donc, le numéro 16, bah un numéro 16 mythique, le Avengers volume 1, numéro 16, qui date de 1966 ou 67, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Dans ce numéro, Captain America est toujours en Afrique, puisqu'il avait été se battre contre le Baron Zemo, dans les épisodes d'avant, à la fin de l'épisode 15, il le tuait. Et donc, les Avengers se retrouvent juste Iron Man, Giant Man, Wasp et Thor face aux Masters of Evil. On s'en suit un petit combat, etc. Et Thor décide de partir de l'équipe parce qu'il a besoin de faire autre chose et qu'il veut prendre un petit congé des Avengers.
Il avait un forfait pour le pack Astérix, en fait.
Voilà, c'est ça. Il fallait qu'il rentre sur Asgard vite. Parce que on l'a
parce qu'il allait faire quelques petits tours de tonnerre de deux. En plus, ça tombe bien.
Du coup, bah, ça donne des idées aux autres et Iron Man, Giant Man et Wasp décident eux aussi de prendre un petit congé. Mais pour prendre un congé, il leur faut des remplacements.
Oui.
Puisqu'ils peuvent pas laisser juste Captain America tout seul dans l'équipe. Ça,
bah non.
Ça fait des ordres. Avengers.
Non, ça fait plus Avengers. Ça fait que Captain America.
Ça fait Avengers quoi.
Voilà.
Un peu moche. Et bah les remplaçants viennent à eux directement. Puisqu'il s'agit de Hawkeye, Quicksilver et Scarlet Witch, qui donc sont engagés dans l'équipe et prennent la place des trois autres.
Et ils vont rester longtemps.
Et ils vont rester, ouais, très longtemps.
Voilà. Donc, alors qu'ils étaient juste partis pour être des remplaçants. C'est quand même incroyable, cette histoire.
Mmh. Donc, voilà, c'est l'arrivée de trois gros membres des Avengers dans l'équipe au numéro 16.
Bon, eh bien, alors moi, mon numéro 16, si c'est tout.
Oh bah oui, c'est tout, oui. J'ai pas
c'est un check-it ou c'est un bail?
Oh, c'est un ultra bail, c'est
oui,
un classique.
Bien sûr, mais tous les numéros de la semaine sont des bails. Et donc, un autre bail que vous aurez acheté pour la semaine prochaine, alors attention, t'as fait fort, tu crois que t'as fait fort, mais je suis allé chercher encore plus loin, puisque mon numéro de la semaine, c'est le Batman 16.
Oh la vache.
Le Batman 16 de 1943, et pourquoi le Batman 16? Eh bien, parce que c'est la première apparition de Alfred
dedans. Oh, excellent.
Voilà, première apparition d'Alfred. Ben oui, au début, il n'avait pas de majordome, Bruce Wayne. Et donc, on lui a collé ce majordome-là, qui deviendra un personnage mythique.
Surtout, il n'avait pas la même tête au début.
C'est vrai, ouais, il n'avait pas la même tête.
Il était beaucoup plus rond, beaucoup plus joufflu, un peu plus dans l'esprit Nestor, le majordome du capitaine Haddock, que le Alfred qu'on connaît aujourd'hui.
Oui, ou Monsieur Pinkwick, c'était pas Monsieur Pickwick, ou je sais plus quoi, dans Popeye, qui mangeait des hamburgers, enfin bref.
Ouais, là tu m'en demandes trop.
Oui, bon. Alors, les fans de Popeye nous le diront, peut-être, ou pas. Donc voilà, donc Alfred, le père de Bruce Wayne, hein, depuis Batman. Non, je sais pas. Donc voilà.
Fallait que tu ramènes ça, hein. Fallait.
Oui, hein. fallait que je remette ça sur le chat.
Tu veux me mettre en colère dès le début?
Ouais. Oh bah oui, bah il y en aura de la news en plus sur ton grand ami.
Eh ben, c'est un très bel enchaînement, hein, allons-y. À moins que tu aies quelque chose à rajouter sur Batman 16.
Non, du tout, enchaînons. On va commencer avec une petite news sur Boom Studio, et voilà, Boom Studio, le studio en expansion, le studio qui fait boom en ce moment.
Oh là, oh putain.
C'est nul, hein.
Oh là là, ouais.
Alors.
Oh, c'est mauvais.
En plus, c'est juste pour te dire, tu vas voir, c'est vraiment une news extraordinaire qui va changer ta vie. À partir de décembre, Tic et Tac, les Rangers du Risque, sont chez Boom.
Eh ouais, dans la ligne Boom Kids avec tous les autres publications Disney.
Voilà.
Ce qui veut dire que s'ils rajoutent et ils continuent de rajouter des titres dans la ligne Boom Kids, les parutions Disney vont sûrement rester chez Boom encore pendant un bon moment. Donc ce qu'on pensait peut-être qui aurait pu arriver, c'est-à-dire que les parutions Disney reviennent chez Marvel, vu que maintenant Marvel appartient à Disney, bah c'est pas le cas.
Oui.
Je crois que je t'ai perdu là.
Oui, non. C'était au fait très clair. C'est juste qu'il faut quand même que je dise que au scénario, ce sera Yann Brill, voilà. Je ne sais pas si
je connais. Je ne connais pas du tout.
Et Lionel Castellani au dessin. Alors de toute façon, ils sont peut-être plus habitués aux séries adaptées de dessins animés Disney que de comics de super-héros.
Mais c'est peut-être des gens qui travaillent déjà pour Boom Kids, mais comme j'en lis pas beaucoup, je sais pas, je les connais pas.
Voilà. Et juste pour la petite histoire, Tic et Tac, tu sais comment il s'appelle en anglais ?
Chip and Dale, bien sûr.
Chip and Dale, bien sûr.
C'est une mini ou un ongoing ?
Non, apparemment c'est un nouveau titre ongoing, donc a priori.
Bah, ça commence à en faire un paquet, hein. Mais de toute façon, ouais. La ligne Boom Kids marche plutôt pas mal quand même, donc c'est la preuve qu'il y a du répondant au niveau des jeunes lecteurs aux États-Unis.
Ben oui, ouais, ouais. En tout cas, voilà, c'est Boom, c'est vraiment le studio à surveiller quand même. Ouais. On part chez Image maintenant. Chez Image avec un trailer, enfin un teaser plutôt. Un trailer, c'est plutôt pour la vidéo. Donc un teaser, au fait, une image pour Walking Dead, le Walking Dead 80, avec le slogan No Way Out.
Mmh.
Qu'on a déjà aperçu il y a quelques jours sur le net.
Vu dans les pay-per-view catch.
Enfin, oui, aussi, oui.
C'était très mauvais, mais j'ai 4 heures de sommeil, j'avoue, donc ça va être des blagues de merde tout au long, je vous le dis tout de suite.
Non, mais c'est un petit peu l'enfer en cellule, Hell in a Cell, donc c'était un petit peu la période de la prison dans Walking Dead. Voilà, on enchaîne.
mais des références de catch.
Faut s'accrocher hein, pour nous suivre ce soir, attention. Donc là il y a au fait un slogan qui est ce qui les retient à l'extérieur nous retient aussi à l'intérieur au fait.
Très énigmatique.
Voilà. En fait bon on voit quelqu'un qui observe des zombies qui sont effectivement clôturés quelque part. Et voilà. Donc les zombies sont à l'extérieur, mais du coup tout le monde est enfermé à l'intérieur. Enfin c'est logique. Tu vois ce que je veux dire.
D'accord.
Bah, c'est un petit peu tout le problème, quoi. Les zombies sont partout, donc les survivants se clôturent dans des endroits desquels ils ne peuvent plus sortir au bout d'un moment, mm-hmm. Ce qui pourrait être problématique.
Oui.
Donc voilà, donc bon, à voir ce que ça donne, de toute façon, ça va être encore du grand art. Bah, c'est quand même Walking Dead et Robert Kirkman, donc bon, ouais. On lui fait confiance. Récemment, il y a eu la Fan Expo de Toronto.
Mm-hmm. Toronto, qui, comme chacun le sait, est en Grande-Bretagne.
Oui, voilà.
Oui, j'avais prévenu les blagues de merde. Hein.
Et la Baltimore Comic Con aussi, d'ailleurs.
Oui, qui elle, est en Espagne.
Voilà.
Voilà, je continue.
Et de ces deux conventions, qui ont eu lieu les 27 au 29 août, ça, je sais plus si je l'avais dit. Il y a eu quelques petites annonces de fait. Ça et là, au fait, surtout sur du Marvel et du DC.
C'est assez dommage quand deux conventions tombent en même temps, puisque on a des annonces qui sont faites d'un côté, d'autres qui sont faites dans la deuxième convention. Bon, bien sûr, on a des annonces qui se recroisent, et surtout, le problème, c'est pour les auteurs, quoi.
J'ai l'impression qu'il valait mieux être à Toronto, hein, quand même, pour avoir plus de news. Mais enfin bon, enfin rien de... Hein, c'est pas le Comic-Con non plus, mais bon. Donc, au rayon des news, on apprend par exemple sur les X-Men que c'est la force du Phénix de Hope qui va permettre à 5 mutants, donc les fameux mutants de Generation of Hope, les nouveaux mutants qui apparaissent dans Uncanny X-Men, au fait, de révéler leur pouvoir. Donc on se demandait d'où sortaient ces nouveaux mutants, et bien apparemment, l'explication des scénaristes, c'est que les nouveaux mutants viennent de la force du Phénix.
Et donc Hope pourrait créer de nouveaux mutants. Vu les conclusions, je tire par rapport à ce que tu me dis.
Oui. Enfin, voilà.
Ouais. Un pouvoir de mutant inédit.
Oui. Voilà, créer de nouveaux mutants à l'infini. Donc elle pourrait repeupler peut-être toute la Terre en plus.
Ouais.
Bon, c'est peut-être ce que craignait Bishop, au fait. Je sais pas. Ensuite, sur Shadowland. Alors, un nouveau tie-in... Non, enfin, un nouveau one-shot, plutôt, annoncé à Shadowland, After the Fall.
D'accord.
Voilà. Alors donc au fait on sait pas trop hein, si c'est un one shot ou une mini d'ailleurs. La question reste posée. Ce sera pas avant la fin de Shadowland, donc avant de décembre, de toute façon. Ce sera suivi de toute façon à partir de janvier d'une mini-série en 4, le fameux Daredevil Reborn.
Mm-hmm.
Donc avec Andy Diggle au scénario et David Gianfelice au dessin.
Ok.
Et Jock réalisera les couvertures.
Son partenaire.
Voilà.
Andy Deagle et Jock qui seront au Deal Comics Festival.
Exactement, oui. Rappelons-le. Et donc voilà, vous pourrez certainement les voir en novembre prochain. On continue donc avec Andy Deagle aussi. Donc une rumeur justement sur Andy Deagle qui pourrait obtenir une série Punisher. Mais en fait, ce n'est qu'une rumeur pour le moment.
D'accord.
Donc voilà, donc à voir si oui ou non. Moi, ça m'intéresserait en tout cas s'il écrivait ce personnage-là.
Ah, je pense que ça peut lui aller, ouais.
Ouais. Donc bon, à confirmer.
Ça me ferait peut-être lire du Punisher, d'ailleurs.
Par contre, ce qui est sûr, c'est que Giant Man revient à partir d'Avengers Academy 7. Alors, est-ce que ce sera...
J'ai vu les teasers.
Voilà. Et est-ce que ce sera Hank Pym ou est-ce que ce sera quelqu'un d'autre, sachant que Hank Pym aura sa propre mini-série dans pas longtemps. On l'avait annoncé. Donc, bah, à voir, quoi. En tout cas, bonne nouvelle pour les fans du personnage de Giant Man.
Mais rappelle-toi que Ant-Man est aujourd'hui un autre personnage, donc on sait jamais.
Oui.
Il nous reste encore Yellow Jacket à faire revenir.
C'est pour ça que, oui, c'est pour ça que je sais pas hein, si ce sera Hank Pym sous le costume. Bon, il y a des chances quand même. Vu qu'il fait partie en plus des profs de l'Avengers Academy.
Non, on sait jamais. Je te dis, bien il alors, serait c'est capable de nous faire un nouveau Giant Man, puis nous ressortir un Yellow Jacket et nous faire une méga histoire où les trois se disputent l'identité parce que Hank Pym veut la récupérer, veut toutes les récupérer, je sais pas.
Oui, puis il y a un mort, et puis on sait pas qui, et puis c'est Identity Crisis chez Giant Man.
Un peu, ouais, je pense.
Alors, par contre, ce qui est sûr, c'est que Mike Carey va écrire du Thor avec une mini-série.
Ouh.
Qui ouais, s'appelle c'est... Thor Wolves of Asgard, donc les loups d'Asgard, hein, avec Mike Perkins au dessin.
Alors là, Mike Carey sur Thor, ça peut vraiment donner quelque chose de super bon.
Alors,
là, j'aime beaucoup Mike Carey, donc.
Oui, bah, moi aussi. Mais moi aussi, Mike Carey, qui nous étonne toujours sur X-Men Legacy et sur The Unwritten.
Mm-hmm. Entre autres.
Entre autres choses, oui, bien sûr. Ouais. Mais voilà. Donc, c'est vrai que c'est un scénariste à surveiller. Et bah, ça pourrait être intéressant de voir ce qu'il a proposé sur Thor. Ensuite, on continue avec la branche cosmique aussi. Il y a eu des news sur la branche cosmique durant ce festival.
Moi, je découvre les news en fait en même temps que vous, hein. Donc,
oui, voilà.
Je suis pendu à tes lèvres.
C'est une récap, hein. C'est une récap un petit peu des trucs les plus importants entre guillemets, parce qu'il y a eu vraiment pas mal de choses en vrac qui ont été dites ça et là. Et donc, la branche cosmique, eh bien, Marvel annonce de grandes choses. Alors, de grandes choses pour la branche cosmique. Donc, on la croyait morte et enterrée, et eh ben non, pas du tout. Alors. Premier indice, Havok et Polaris vont revenir sur Terre.
Il serait temps. Oui. Ça fait juste 5 ans qu'ils sont dans l'espace, peut-être même un peu plus.
Oui, oui, c'est vrai, oui, oui, effectivement.
Non, mais à la rigueur, si on les voyait un peu plus fréquemment, je dis pas quoi, mais quoique, bon, n'ayant pas encore lu Realm of Kings, peut-être qu'on les voit beaucoup, mais c'est vrai qu'ils ont été vraiment absents très longtemps, ils étaient dans les Starjammers et on les voyait pas trop, quoi. Donc,
Bah maintenant c'est clairement devenu des personnages cosmiques. Alors bon. Enfin, on les voit plus comme des personnages cosmiques que comme des mutants.
Mais étant donné qu'ils font partie des Starjammers, ouais, c'est logique, mais le problème, c'est que les Starjammers, on les voyait pas, donc... Autant dire que les personnages avaient disparu, quoi. On les sortait juste pour les gros événements, et encore.
Et deuxièmement, par rapport aux séries cosmiques, au fait, il y aura une explication donnée au hiatus de Nova et Guardians of the Galaxy. Donc apparemment, voilà, on va nous expliquer pourquoi, au fait, il n'y a pas eu ces séries-là pendant ce temps-là. Donc, est-ce que ça veut dire qu'elles vont revenir ensuite? Bah, possible, puisqu'on nous annonce deux grandes choses. Donc voilà, on en saura plus tard.
Deux grandes choses, DE ou DEUX?
Non, deux grandes choses au pluriel, pas deux.
Ah oui, d'accord, oui. Plusieurs grandes choses.
Plus de deux, quoi. Oui, plusieurs grandes choses. Okay, oui, voilà.
Non, mais...
oui, non. Faut s'attendre à plusieurs. Oui. Non,
parce que deux grandes choses auraient été possibles avec Nova et Guardians, tu vois. Enfin...
Oui, voilà. Non, je t'annonce. En plus, oui, d'accord. Enfin, voilà. Donc, bref.
N'importe quoi. Ça
On passe chez DC avec Tick, qui devait, au fait, à la base, redevenir Nightwing après toute la saga Return of Bruce Wayne, etc. Mais grâce au succès, semble-t-il, au fait, qui remporte sous le costume de Batman, eh bien, les scénaristes ont décidé de le garder sous le costume, et donc on aura bientôt deux Batman, au fait.
Peut-être une guerre des Batman en préparation.
Ouais, ça rappellerait un petit peu ce qu'on a eu après. Comment ça s'appelait? Breakfall? Non.
Nightfall. Enfin, Nightfall. Non, c'était si c'était ça, Nightfall.
Nightfall,
avec
ouais,
Jean-Paul Vallée sous le costume de Batman qui le remplaçait pendant qu'il guérissait son dos.
oui, ça me fait toujours marrer. Jean-Paul Vallée, ça fait pas du tout héros américain.
Bah oui, non, mais voilà, c'était l'espèce d'ordre d'Azrael,
oui.
Quoi.
Oui, de Saint-Dumas, je crois.
Oui, c'est ça.
Dan Didio aussi a suggéré qu'il y aurait peut-être, alors tu vas grincer des dents, attention, une mini-série consacrée à Damian.
Ouais, je grince pas des dents parce que ça va me faire mal, mais imaginez.
Voilà, donc par Andy Kubert. Mm-hmm. Bon, à voir si ça reste au stade de la rumeur. Des nouvelles aussi de Batman Inc., la série de Morrison sur Batman, donc dont le pitch, grosso modo, c'est de montrer différents Batman de plusieurs univers.
D'accord, donc ça s'inscrirait pas trop dans la continuité, finalement.
Bah non, voilà, ce sera un truc un peu à part, semble-t-il.
Tant mieux. Pardon.
On verra. Mais alors, justement, revers de la médaille, on nous annonce que, en tout cas, Grant Morrison est sur Batman, au moins jusqu'en 2012.
Ouais.
Voilà. Et qu'il prépare une histoire complètement dingue, voilà, prochainement.
Le truc, le truc le plus fou jamais écrit pour Batman, soi-disant.
Oui, voilà. En gros, c'est ça.
Ouais. Ah, j'en salive d'avance.
N'est-ce pas?
Ah, j'attends 2013 avec impatience.
Moi aussi. Je compte les jours, même. On a aussi eu la confirmation qu'il y aurait bien une série régulière Batman Beyond.
D'accord.
Voilà. Bon. Youpi.
Bah, ça veut dire que ça marche, quoi.
Bah, semble-t-il. Écoute, le numéro d'essai a été concluant, semble-t-il. Et aussi, il y aurait peut-être donc un mensuel, ou en tout cas peut-être même un hebdomadaire, qui serait écrit par rapport au jeu DC Universe Online, en fait.
Il y a eu un numéro 0 qui est sorti là récemment.
Voilà. Donc, est-ce que ça va devenir récurrent? Est-ce que ça va être un nouveau titre?
Ils avaient fait l'expérience chez Image avec un City of Heroes qui sortait tous les mois.
Ouais.
Mais la série s'était arrêtée au numéro 20, je crois.
Bon, c'était déjà quand même pas mal. Ça a duré plus d'un an, alors.
Mais le problème, c'est toujours qui mettre en scène, quoi, dans ce genre de choses. Dans ce genre de magazine basé sur un univers de MMORPG, qui mettre en scène, quoi.
Ce qui serait intéressant, c'est de mettre en scène certains joueurs, tu sais, certains personnages créés par des joueurs. Je sais pas si on peut créer son propre héros.
Ah bah oui, il faudra créer son propre héros puisque tu ne joueras pas avec les personnages.
Oui, voilà, tu les croises.
DC, tu les croises. Voilà, ils t'aideront dans des missions. Ce seront des boss à battre, ce genre de choses. Mais
peut-être qu'il y aura des concours justement d'organiser pour que ton personnage apparaisse dans le comics. Hein, tu vois le topo, quoi.
Ouais, c'est possible. Ouais, c'est vraiment possible ça. Mmh. Ça rajouterait un peu de piquant au jeu pour les hardcore gamers, quoi.
Ouais, ouais, et puis des autres packs à trouver, style couverture cachée, machin dans le jeu, enfin bon.
Parce que c'est pareil, la série World of Warcraft en comics s'est arrêtée, je crois, au numéro 25. Finalement, enfin, c'est pas des choses qui marchent énormément. Ils avaient voulu relancer la série en faisant une spéciale Horde, une spéciale Alliance, bon, les joueurs de WoW comprendront, et pareil, ça n'a pas marché, ils ont dû faire un numéro de Horde, je crois, puis ça s'est arrêté là. Donc, les franchises de MMORPG... En comics, généralement, ça tombe vite, quoi.
Eh ben nous, en tout cas, on va arrêter les news là, puisque j'ai terminé mon lot de news pour cette semaine.
Et donc, on va s'attaquer à la double review de la semaine.
Wolverine Goes to Hell.
C'est un nouveau numéro 1. Wolverine volume 4, déjà.
Ah oui.
Volume 4.
Je croyais que c'était 5. Parce que je oui, d'accord, ouais, volume 4.
Non, volume 4. Et donc, c'est le numéro 1, comme tu disais. Il va en enfer.
Wolverine. Il n'est pas content.
Pas vraiment. C'est écrit par Jason Aaron, dessiné par Renato Gaides et ancré par José Wilson Magal AS. Pardon. Qu'est-ce que vaut ce numéro 1, donc, ce nouveau numéro 1? Bah, ça commence tout simplement sur Wolverine qui est avec son ancien ami de Team X qui s'appelait Wraith, John Wraith. Oui. Et qui est devenu pasteur depuis. On le croyait mort et en fait il a réussi à échapper à la mort.
Et, oui, alors. Pour ceux qui n'ont pas lu Weapon X, c'est vrai que moi, par exemple, j'en ai pas lu beaucoup. Je voyais pas trop qui c'était, mais on comprend vite de qui il s'agit. Quoi.
Oui, puis on a juste à savoir que c'est un ancien collègue de Wolverine. Ça se comprend tout seul, simplement, la lecture. Oui. On n'a pas besoin d'en savoir plus, en fait.
Exactement, tout à fait.
Même son pouvoir est pas détaillé, on s'en rend pas compte, alors que son pouvoir, c'est simplement la téléportation.
Ah oui, d'accord.
Mais on s'en rend absolument pas compte. Hein. De toute façon, ça n'a aucune incidence sur l'histoire.
Non, du tout.
Ce qui a de l'incidence, c'est que le mec est devenu pasteur depuis cette mort, enfin presque mort en tout cas, Donc Wolverine le rejoint et il passe son temps en fait à s'interroger, notamment depuis la mort de Nightcrawler, sur la foi, sur qu'est-ce qu'il y aura après la mort, et il se
Oui,
pose pas mal de questions.
c'est à nouveau les mêmes interrogations qu'on avait dans le dernier numéro de Weapon X.
Donc ça va, il y a quand même une certaine continuation en fait sur le
Oui,
chemin.
tout à fait. Non, mais au début, il y a une certaine continuation. Et puis, au fait, franchement, hein, avant même que je dise le numéro, simplement le Wolverine Goes to Hell, j'avais peur qu'on ait un Wolverine qui nous joue, qui se la joue à la Spawn, quoi. Eh ben, manque de peau. C'est un peu ça.
Ben ouais, c'est un peu ça. C'est pour moi, ça m'a surtout fait penser à l'arc qu'avait écrit Mark Millar.
Totalement,
Je
ouais.
me je rappelle plus le nom d'ailleurs.
Enemy of the States.
Ouais, merci. Voilà. Où il
Voilà.
était, où il se faisait tuer par Gorgon et ressuscité par la main, et il devenait, il attaquait un peu tout. Là, c'est-à-dire que d'un seul coup, on a un Wolverine complètement taré qui est en train de tout détruire, qui a des pouvoirs surnaturels qui sortent de je ne sais où.
De son trou du humain.
Ouais. Et voilà, il détruit tout et on se rend compte en fait que c'est pas réellement Wolverine. C'est son corps, mais c'est pas lui qui le contrôle.
Oui. Enfin bon, oui, ouais. Enfin, il est quand même, c'est un peu comme tu disais avec la main, il est possédé quoi.
Ouais, voilà, c'est ça.
Il est possédé, mais enfin bon, c'est quand même lui. C'est pas quelqu'un qui a sa tête quoi. C'est quand même lui. Enfin,
Ouais,
d'après ce que j'ai compris.
ah bah oui, c'est son corps à lui, mais c'est pas son âme, quoi.
Oui, c'est ça.
De l'autre
Ouais.
côté, on a la copine de Wolverine, parce que oui, il a une copine, pour ceux qui n'auraient pas suivi.
Oui, alors voilà, parce qu'on a un gap en français. Entre le français et l'américain, donc en fait la journaliste qu'on rencontre au début de Weapon X est devenue sa nouvelle petite amie. Et donc comme c'est toujours Jason Aaron au scénario, eh bien comme tous les scénaristes qui introduisent une petite copine dans l'univers d'un super-héros, on nous la refourgue quoi, à nouveau.
Et donc là, du coup, elle travaille donc toujours à son genre, dans son journal, et bah, elle se fait attaquer par une bande qui ne sort. Enfin, je sais pas. Moi, personnellement, les personnages ne m'ont rien dit. Hein.
Non, moi non plus, je pensais que t'allais m'éclairer, je pensais que t'allais me dire, mais oui, tu sais, c'est les fameux épisodes de Claremont en
Je sais pas.
1987, lorsqu'ils étaient entre l'Australie et puis le Pizza Hut. Bon.
J'adore comment tu m'imites à chaque fois.
Oui, non, ça fait un peu un mix entre Steve et le père Foura.
Ouais, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire.
Mais oui,
Mais
mais c'est Steve Foura. Voilà. Steve Foura, je
oula,
demande ce que t'as.
voilà la pente glissante.
Mon Dieu. Bon, allez, passons, et donc?
Et donc, elle est sauvée par quelqu'un de qui est cher à Jason Aaron.
J'allais faire un jeu de mots qui allait totalement révéler l'identité de cette personne, donc je vais pas le faire.
Bah, je pense que ouais, on va pas révéler qui c'est, quoi.
Non, on va pas le dire. Donc
Qu'on laisse quelques surprises.
unexpected guest.
Voilà. Mais ouais, en tout cas, c'est quelqu'un qui est cher à Jason Aaron et qui fait partie de l'univers de Wolverine. On n'en dit
Qui est
pas
un peu
plus.
moins cher à Wolverine.
Oui. Bon, ça dépend.
Ça dépend des moments, ouais. Mais donc bah enfin, il y a quand même de l'action, on s'ennuie pas du tout dans ce premier épisode.
Et on a aussi un passage sur un espèce de groupe qu'on voit qui en fait on sait pas trop ce qu'ils veulent. On sent qu'ils sont les instigateurs de ce qui arrive à Wolverine, de ce qui ils sont aussi l'instigateur de les instigateurs pardon de cette attaque sur la petite amie de Wolverine. Et on sait pas trop ce qu'ils veulent. On voit qu'ils ont tout un tas de fichiers étalés devant eux. On voit des gens comme Cyclope, comme le Silver Samurai. Il y en avait d'autres, je les ai pas retenus. Mais il y a pas mal de fichiers. Ils disent que tous les pions sont en place et voilà.
Alors, est-ce que ça a un rapport avec les vampires? Tu penses que ça...
Mais je sais pas parce qu'il y a Jubilee, voilà, c'est bien que tu parles des vampires, ça me fait penser qu'il y a Jubilee aussi dans les fichiers.
Oui, c'est pour ça que j'ai
Donc
pensé à ça. Je me
oui,
suis dit, est-ce que
effectivement,
c'était...
est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Si c'est pas ça, ça pose quand même un petit problème par rapport à Curse of the Mutants. En même temps, moi je donne pas cher de Curse of the Mutants, donc je pense que ça va être vite oublié ça. Donc voilà, je pense que
Oui, enfin,
Jason Aaron a
ça risque
commencé
de
à
durer
déjà
un peu
l'oublier.
longtemps, hein.
Mais je pense que Jason Aaron a déjà commencé à l'effacer de la continuité. Ce qui va peut-être pas plus mal, enfin, selon moi, c'est pas plus mal, mais parce que bon, on s'est à chier. Ben là, c'est dit. Et puis donc on a un final sur qu'est-ce qui est arrivé à l'âme de Wolverine et tout est dans le titre.
Oui,
Attention, spoiler.
et oui, hein, attention spoiler, parce que la fin m'a vraiment fait penser à du Spawn
Ah mais c'est
avec
totalement ça.
Malebolgia.
Ah
Et
mais c'est.
surtout, non mais surtout, là on peut pas ne pas spoiler, parce que quand même, question, quel est ce personnage? On a déjà Mephisto dans l'univers Marvel, donc lui c'est qui?
Ben je sais pas.
Voilà.
Je sais
Et
pas,
c'est
on verra bien.
vraiment, il ressemble vraiment au Spawn de Image United un petit peu.
Donc là, moi franchement, Mais je sais pas quoi en penser, quoi. J'ai envie d'aller voir la suite quand même pour essayer de comprendre un peu parce que c'est un peu fouillis. Mais en même temps, ça me fait tellement penser à ce qu'avait écrit Mark Millar que j'ai vraiment peur de la redite.
Moi, j'ai peur de la redite, puis surtout, ce qui me fait peur, c'est Wolverine est un espèce de démon, ok, Wolverine est mort, ok. Mais alors,
Mais
qu'est-ce qu'il
comment?
fait dans X-Force? Qu'est-ce qu'il fait dans les New Avengers? Enfin, voilà. C'est alors là, pire que tout, quoi, maintenant. Déjà qu'il avait le don d'ubiquité, alors maintenant.
Alors, à moins qu'il y ait des répercussions, qu'on ne les voit pas, et là, ce serait vraiment un coup de chapeau de ne pas nous le montrer dans toutes ces séries-là pendant quelques mois. Mais étant donné que X-Force revient en octobre ou novembre, je ne sais plus, il faut que cette histoire soit réglée d'ici là. J'y crois pas trop, quoi. Alors, bien sûr, il y a toujours le truc de c'est censé se passer avant, c'est censé se passer après, mais c'est gros, quoi.
C'est peut-être juste le temps d'un arc, au fait.
Je pense que ça va être ça. Le numéro se termine sur une deuxième petite histoire qui s'appelle Scorched Earth Part 1, c'est-à-dire Terre brûlée, où on assiste à la fin du Silver Samurai. Et ça s'arrête comme ça. Et ça s'arrête de façon abrupte aussi, cette histoire.
On n'est pas sûr.
Pour moi, c'est clair, hein.
Ah oui, moi je pensais qu'au
Le
contraire, il
mec
allait
va
vouloir
mourir.
lancer un truc, une intrigue dessus et.
Non, mais le titre de ce mini-épisode s'appelle The Last Stand of Silver Samurai. Puis bah les dernières cases sont claires, quoi. Il va sur la tombe de Mariko, son épée qui est toujours lumineuse, un peu façon lightsaber à la Star Wars, il la plante devant la tombe, et le sabre s'éteint au temps de sa
Ouais.
vie. Enfin, je pense que c'est un espèce de côté poétique. Là, les dessins sont assez particuliers. Ça colle quand même avec l'ambiance, mais c'est assez particulier, quoi.
Peut-être qu'il va devenir aussi un nouveau soldat de cette espèce de Satan bis là.
Je sais pas, en tout cas c'est un part 1, donc on verra sur quoi va déboucher le part 2. Moi personnellement, je ne sais vraiment pas quoi penser de ce truc. Il nous manque beaucoup d'infos. C'est pas que c'est pas accrocheur, mais ouais voilà, comme tu disais, quelles vont être les répercussions? Peut-être aucune, sûrement aucune.
Moi, ça me rappelle aussi dans le look de Wolverine quand il avait été mort là, enfin
Oui,
mort le
le
personnage,
capitaine, le capitaine, n'importe quoi.
le capitaine
Le
Flamme.
cavalier de l'Apocalypse, mort, ouais, Death, à l'époque où il était écrit par Rick Larsen.
Oui, et
Épisode
bon,
140 à peu près de Wolverine volume 2.
ça correspondait juste avant les fameux 12,
Ouais,
l'Apocalypse les
voilà.
12,
Juste avant Apocalypse the 12.
qui était très mauvais.
Qui était très mauvais, mais qui avait quand même il y avait une très bonne chose de faite par Larsen à l'époque. C'était que, à partir du moment où il avait été remplacé, Larsen avait complètement arrêté d'utiliser les bulles de pensée pour Wolverine. Et il avait révélé ça après. Et c'est vrai qu'effectivement, quand tu regardes, il n'y a aucune bulle de pensée pour Wolverine. Preuve que c'était plus exactement lui, déjà.
Sacré Nicky.
Ah, Eric Larsen,
Nicky
pardon.
Larson, oui.
Je dis une bêtise, du coup, tu me fais tromper. Eric Larsen avait été très malin sur ce coup-là.
Oui, non, mais effectivement, mais de toute façon, Eric Larson, Savage Dragon, aussi à suivre.
Voilà.
Voilà.
Donc, bah, pour moi, ce sera qu'un check-it. Parce que,
Oui,
voilà.
bah pour moi, pour le moment aussi, hein. J'émets quand même de grosses réserves, même si c'est pas mal.
C'est pas mal, mais est-ce que ça va pas servir à rien? Donc, bah, dans les prochaines semaines, on aura Dark Wolverine et X-23. On verra aussi. Apparemment, tout ça est lié. On verra si c'est vraiment lié.
Oui, et on vous en reparlera très prochainement, sans doute.
Peut-être, oui. On verra bien. On passe à la review suivante. Et
Et
c'est à
c'est
toi.
moi qui, oui, c'est moi qui commence cette semaine avec la review de Red Hood, The Lost Days.
Ouais, le seul
Et
décès de la semaine.
le seul décès, oui. Enfin, le seul décès. Non, c'est Wolverine qui est décédé cette semaine.
Ouh!
Et alors donc. C'est la quatrième partie sur 6, hein, c'est une mini en 6. Le scénario est de Jude Winnick et les dessins de Jeremy Hone, à moins que ce soit juste la couverture. Non, c'est ça. Voilà, le faux effet d'annonce. Non, mais c'est ça, Jeremy Hone au dessin. C'était pas lui, il me semble, sur les premières parties. Bref, donc, eh bien au fait, cette mini nous raconte ce qu'a fait Red Hood, donc Jason Todd, à l'époque où il n'était pas encore réapparu dans l'univers de Batman, il y a plusieurs années, après qu'il ait été ressuscité par Superboy Prime, qui tapait comme un gros abruti dans le mur des réalités, etc. Enfin bref, vous connaissez la chanson.
Je casse la réalité avec un coup de poing.
Voilà. Et
L'explication la
je
plus
fais un
pathétique.
camoulox aussi.
Ah
Je fais un camoulox.
ouais, non, mais il faut avouer que quand même l'explication, là, c'est quand même le truc le plus mauvais de Jeff Jones que j'ai eu.
Oui, c'est vrai que
C'est
c'était
l'explication la plus ridicule.
assez pas terrible.
Moi,
Mais
pour
bon.
moi, ça passera jamais, cette explication-là.
C'est vrai que l'explication était miteuse, mais j'avais bien aimé Infinite Crisis. Bref, ce n'est
Mais
pas le sujet.
les conséquences étaient très bonnes, mais l'explication était pourrie.
Donc, Red Hood, donc notre Red Hood, ça nous raconte au fait toutes ces années perdues, peut-on dire, durant lesquelles il a été, au fait, on s'en rend compte durant toute cette mini, coaché par Talia al Ghul. Ils ont une espèce de relation assez proche quand même, hein. On voit qu'ils ont été assez proches durant plusieurs années, d'où en plus mon idée que peut-être il y a un squelette ou plutôt un bébé dans le placard entre ces deux-là. Peut-être que un jour on nous dira que Damian était au fait le fils de Talia et de Jason Todd.
Ce qui en plus au niveau du comportement de Damian correspondrait.
Ce qui correspondrait en plus, voilà. Mais je ne suis pas Grant Morrison, je ne suis pas fou. Donc enfin.
Tu vas te faire des ennemis là.
Mais voilà. Non mais on peut être fou et génial, hein. Oui. Ça, l'un n'empêche pas l'autre. Bon.
Rattrape-toi aux branches.
Ouais, voilà. Et donc, cet épisode, c'est à nouveau Talia qui lui lance un défi. En gros, il doit infiltrer une cellule terroriste russe et empêcher un terrible attentat qui ferait plein de victimes. Donc, au fait, c'est une espèce d'aventure un petit peu à la Mission Impossible pour Jason Todd. Ça m'a vraiment fait penser à ça. Il y a beaucoup d'action. Jason Bourne, oui, c'est vrai. C'est plus Jason Bourne, d'ailleurs, effectivement. C'est plus Jason Bourne, puisqu'il y a le côté un petit peu identité perdue, puisqu'il n'existe plus en tant que Jason Todd, mais c'est Red Hood. Hein. Alors, il a plus le casque, il a une espèce de capuche rouge, donc Red Hood, comme le Red Hood de chez Marvel, un petit peu.
Comme le petit chapeau rond rouge, tout simplement.
Oui, bien sûr, puisque Red Hood veut dire chapeau rond rouge, en français. Mais enfin voilà, donc une histoire pleine d'action, très sympathique, très rythmée, jusque là une bonne mini-série, quoi, une bonne un bon divertissement. Le personnage de Jason Todd étant écrit par Jude Winnick, c'est pas mal. Mm-hmm. Donc moi, je vous conseille cette mini en check-it. Hein. Les premières parties étaient un petit peu au-dessus de celle-là. On sent que ça stagne un petit peu. On est au milieu, donc bon, faut voir la fin.
Mais voilà, peut-être qu'une petite baisse avant de remonter pour un final explosif. C'est souvent le cas, hein, dans les mini.
Bon, d'ailleurs, c'est déjà dans celui-là un final assez explosif. Voilà, oh, je n'en dirais pas plus.
Petit indice.
Non, mais enfin voilà, il y a un final explosif dans ce numéro-là. Et c'est sympathique. Bon, alors attendez peut-être la sortie du TPB, hein, de toute façon, qui devrait sortir certainement.
Oui, ça sortira.
Donc voilà. Donc pour moi, c'est un check-it. Et si vous êtes fan du perso, achetez-le, hein. Voilà, puisque c'est Jude Winnick qui l'écrit, donc il est forcément bien écrit.
Très bien. Bon, on passe à la suite. C'est un retour chez Marvel, Shadowland Elektra. Donc c'est un one-shot écrit par Zeb Wells et dessiné et créé par Emma Rios. Bon alors déjà, Emma Rios, pour certains considérée comme une superstar, moi je suis totalement hermétique à son style, donc ça m'a pas aidé. Ça, j'ai pas du tout accroché, quoi. En tout cas au niveau du dessin. Maintenant au niveau de l'histoire. Donc déjà, c'est bien précisé d'entrée de jeu sur la page de récap que c'est censé se passer avant Shadowland numéro 3. Donc, sûrement un possible retour d'Electra dans Shadowland numéro 3. Ce qui se passe, c'est déjà, ça se passe, la plupart du truc se passe avant la mort de Bullseye, juste avant en fait.
Ah d'accord, donc on a le droit à des flashbacks.
Qu'est-ce qu'elle a fait avant que Bullseye ne meure ?
Et elle s'est acheté une pizza.
En fait, elle a Master Rizzo qui vient dans sa tête, enfin oui. Il discute avec elle dans sa tête. Et alors, serait-ce un don de Master Rizzo de lui parler par télépathie, etc. En tout cas, on voit très bien qu'elle le connaît. Ça, ça se sent. Il était avec elle au moment où elle était dans la main. Et grosso modo, il se passe franchement pas grand-chose.
Oui, non mais alors là, parce que là, voilà, je me disais, il va se passer un truc dans ton pitch.
Il lui dit, oh là là, tu veux revenir dans la main, je sens que tu veux revenir. Et puis regarde, Matt est en train de devenir... dans la main, et puis finalement tu avais intégré la main pour essayer de la détruire, mais tu t'es laissé corrompre, et je suis sûr que t'as l'impression que Matt c'est la même chose.
Et puis voilà. Finalement, on parle à ma main.
Oh là là, fou. Au secours. Au secours. Pitié, aidez-moi.
Envoyez vos dons.
Et donc, elle s'attaque à des ninjas de la main, et bien sûr elle les tue, et après ce combat pendant lequel elle discute avec Master Rizzo dans sa tête, hein, toujours. Après ce combat, elle se rend dans la rue et elle voit en direct l'assassinat de Bullseye avec un sai. Elle dit merci à Daredevil. Bon, je vais spoiler un petit peu la fin, mais comme ça va être un pass, je vous le dis tout de suite, n'achetez pas ce truc, c'est pourri, donc je vous révèle la fin.
Voilà, comme ça ce sera fait.
Enfin, moi, ce que j'en ai compris, c'est que finalement, elle va essayer de réintégrer la main, parce que Daredevil lui a fait plaisir en tuant Bullseye, et que voilà, enfin, elle veut se rapprocher à nouveau de lui.
Ce qui est en totale contradiction avec ce qu'on a vu dans les premières parties de Shadowland, où Elektra essayait de rechercher Matt Murdock et de combattre la main pour le ramener à la raison.
Mais moi, c'est le sentiment que j'en ai eu. Maintenant, c'est peut-être totalement autre chose. Hein. De toute façon, honnêtement, pour moi, c'est pas bien écrit. Oui. J'aime pas les dessins. Il y a absolument rien à sauver. Je pense pas que ça ait la moindre conséquence ultra importante pour lire Shadowland 3. À mon avis, on peut lire Shadowland sans lire cette merde. Donc c'est un total pass, quoi. Ne dépensez pas votre argent pour ça. À moins d'être super super fan du perso, quoi. Mais et encore, enfin moi franchement, je trouve ça pathétique.
D'accord.
C'est pour moi, je sais plus comment il faisait, je sais plus si c'était 2,99 ou 3,99. En tout cas, l'un comme l'autre, c'est de l'argent de gâché, quoi. C'est vraiment une merde.
D'accord, ok.
Donc c'est vraiment un gros pass.
Voilà. Ce qui tombe plutôt bien puisqu'on passe à Shadowland.
Voilà.
Numéro 3. Le scénario est de Andy Deagle et les dessins sont de Billy Tan. On reprend donc là où on avait laissé les choses la dernière fois, c'est-à-dire à l'attaque de Ghost Rider.
Mais maintenant on peut le révéler.
Oui. Ghost Rider qui a été envoyé par le Kaïd au fait. C'est l'arme secrète du Kaïd.
C'était ça. C'était une bonne révélation déjà.
Et une bonne révélation, et franchement, Ghost Rider a la méga classe. Alors là, vraiment, il claque, il est excellent comme personnage. Je m'étonne que je n'ai pas eu envie de lire du Ghost Rider précédemment. Et
c'est
pourquoi...
peut-être l'effet Nicolas Cage.
Et c'est... Oui, il y a un petit peu de ça. Oui, un petit peu l'effet Nicolas Cage, sans doute. Mais non, c'est surtout que, je sais pas, en fait. On lui donne pas suffisamment de place, ou je sais pas, enfin, voilà. Faudrait faire vraiment plus de choses avec ce personnage-là, parce que là, il est vraiment monstrueux. Donc le fait qu'il soit manipulé par le Kaïd, ça augure de grandes choses, en tout cas, pour ce personnage-là, et c'est tant mieux. Et alors, comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas obligé de suivre tous les tie-in qui se raccrochent à Shadowland, mais par contre, ce qui est bien fait, c'est que ça donne un éclairage supplémentaire de ce qui se passe autour, et donc là, on retrouve aussi Moon Knight, par exemple. Moon Knight qu'on retrouve aussi dans d'autres séries tie-ins. Bon, alors, on reprend ensuite à la méga baston entre Daredevil, les gars de la main, et puis Spider-Man, Luke Cage et compagnie, là, tous les acolytes qui venaient, demander à Daredevil...
Les Heroes for Hire plus Spider-Man.
Voilà. Qui demandaient tout simplement à Daredevil d'arrêter, de se calmer, quoi, tout simplement. Bien sûr, Daredevil n'est pas content, donc, grosse baston. Et alors, cette baston, je vais pas révéler comment elle se termine. Daredevil abat sa carte mystère, au fait, qu'il avait recrutée lors du dernier épisode. Je vais pas révéler encore qui c'est. Voilà, ceux qui ont lu Shadowland 2 sauront de quoi je parle. Et au fait, la bagarre se termine
mais
sur...
Là, tu vois, pourtant je l'ai lu, mais ça me dit rien du tout. Ce serait pas dans la série Daredevil, peut-être?
Ah oui, t'as raison. Oui.
Parce que oui, moi, j'ai pas lu les parties de Daredevil.
Oui, c'est ça, oui. Effectivement, c'est dans la série Daredevil que apparaît en fait ce personnage, que réapparaît ce personnage. Voilà. Donc je vais pas en dire plus, mais
là tu me donnes trop, enfin tu me donnes beaucoup d'indices mais pas assez pour que je trouve et ça m'ennuie.
Oui, et voilà.
Ouais, il va falloir que je le lise maintenant.
Oui, il faut le lire de toute façon. Et en plus, d'autant plus que la bagarre s'arrête sur l'intervention d'un autre personnage qui se rajoute à la mêlée. Et alors, cette intervention est grandiose. Alors, par contre, elle va à l'encontre de la continuité de ce personnage. Voilà. Je n'en dis pas plus, on commentera, les fois prochaines, parce que...
J'essaye de comprendre dans ma tête, mais j'y arrive plus, là. Je suis trop fatigué pour arriver à faire des liens, et c'est terrible.
Oui. Et en tout cas, c'est juste énorme, mais c'est pas fini, on en est qu'à la moitié du truc. Donc, on voit un petit peu aussi le Kaïd et Lady Bullseye qui discutent du cas au fait Ghost Rider. Mm-hmm. Et il y a une page d'ailleurs, c'est très marrant, tu vois Ghost Rider remonter l'immeuble du Kaïd, c'est en moto.
Façon comme dans le film quoi. Un
peu. Oui voilà exactement. Non mais donc
un
c'est
un petit clin d'œil je pense. Ouais.
Et en tout cas ce personnage est vraiment très très bon. Daredevil donc décide de mettre les bouchées doubles, en fait, plus laisser emmerder par quiconque, et se lance dans une seconde phase de son plan.
D'accord.
Et ben, je vais pas révéler en quoi ça consiste. Et arrive en plus encore quelqu'un d'autre dans la mêlée, puisque justement Elektra arrive confronter Daredevil à ce moment-là, moment où il s'apprête à faire ce que je vais pas dire qu'il va faire.
Voilà. Ça devient compliqué là.
Oui, ça devient très compliqué. Master Izzo aussi de retour d'ailleurs en plus. Il révèle aux Heroes for Hire et à Spider-Man quels sont les sombres desseins de Daredevil. Et d'ailleurs, peut-être que tout cela, alors là c'est une spéculation de ma part, hein. C'est pas dans l'histoire. Mais peut-être que tout cela serait lié, si j'en crois la page finale, peut-être, au fameux démon qui a enrôlé Wolverine. Et peut-être que Wolverine va rejoindre la saga Shadowland, le nouveau Wolverine possédé, quoi.
Alors là, ça serait quand même sacrément énorme.
Oui, ce serait sacrément énorme, parce que je n'ai pas vu de teaser en parlant. Mais, si j'en crois la dernière page du Shadowland numéro 3, on peut faire un lien, tu vois. Donc, est-ce que ça va être ça ou pas du tout?
Ce serait très fort de la part de Marvel de ne pas avoir tout balancé à l'avance.
Oui, parce que ça se rejoindrait, quoi, tu vois. En plus, Wolverine Goes to Hell, Hell's Kitchen. Ah, ah,
oh,
Non, mais mine de rien, je pense que c'est pas impossible. Et en plus, ça pourrait être encore, en plus, il avait été possédé, comme tu le disais tout à l'heure, par la main. Là, ça pourrait être une espèce de suppôt de Satan qui rajoute aussi ses pions dans la bataille. Faut voir.
Je suis en train de réfléchir, mais depuis tout à l'heure, je pense qu'on a dit une connerie, parce que je crois que Gorgon travaille pour l'Hydra et non la main. Mais donc, je crois que c'était une association entre l'Hydra et la main, en fait.
Oui, oui, tout à fait.
L'Hydra avait tué Wolverine et la main. Mmh. Ouais, ça remonte à loin, donc les souvenirs sont pas frais.
Il était bien un agent de la main, ça j'en suis sûr, de toute façon.
Oui, il était un agent de la main, mais oui, il avait été tué par l'Hydra et ils avaient fait une alliance. Ok, non. Mais...
Exactement, avec le Baron von Strucker qui avait fait une alliance avec la main à l'époque.
Ah non, mais là c'est bien difficile. Et puis bon, c'était il y a tellement longtemps, c'est un truc que j'ai pas relu depuis des années, donc les souvenirs sont un peu foufou, on va dire.
Voilà, un peu foufou aussi. Mmh. Bah voilà, non mais en tout cas, un numéro énorme. Pour moi, le meilleur depuis le début de Shadowland, c'est dire. Donc, un must buy, c'est même pas un buy, c'est un must buy. C'est tu dois l'acheter. toi, écouteur, n'importe quoi. Le mec, il sait même plus les mots. Il sait même plus les mots. Voilà. Et c'est du très bon. C'est du très bon. Plein de surprises. Je peux pas spoiler. Donc voilà. J'en ai dit un minimum en disant un maximum.
D'accord. Mais du coup, maintenant, j'ai envie de le lire.
Eh ben tu peux, c'est assez rapide à lire quand même.
Non mais bon, je l'ai en plus, mais c'est que je l'ai pas encore ouvert, j'ai pas eu le temps d'y jeter un œil.
Oui.
Et là ce soir ça va être dur d'avoir le temps. Mais bon, tu m'as vraiment donné envie, donc demain, première chose, je lirai le Shadowland. Ben on va passer à la dernière review, du coup.
Et du coup, allons-y.
La dernière review de la semaine, et on reste dans les personnages un petit peu comme ça, sans grand pouvoir. Comme Daredevil, quoi.
Sans grande responsabilité.
Mini-série en 4, Taskmaster, et c'est donc l'épisode numéro 1. Le scénario est de Fred Van Lanty, les dessins et l'ancrage sont de Refté Paolo. Donc une mini sur Taskmaster. Bon, moi je n'ai pas encore lu Siege, la fin, etc. Donc je sais pas trop ce qui arrive à Taskmaster, notamment à la fin d'Initiative. Je pense qu'on peut arriver à s'en passer à la lecture de cette histoire. J'ai pas eu trop de problèmes à comprendre. Il manque juste un ou deux éléments, mais bon, je pense que la mini devrait répondre à ces questions. On retrouve donc Taskmaster qui a totalement perdu la mémoire.
Ah oui.
Il ne sait plus pourquoi. Il sait plus. En fait, il y a certaines choses qu'il ne sait plus. Il se rappelle un petit peu de sa façon de combattre.
Il sait c'est ce que j'allais te demander. D'accord. Il a toujours ses pouvoirs.
Bien sûr. Et mais en fait, il sait plus où il en est. Il a vraiment totalement perdu la mémoire.
Un peu comme nous, quoi. On ne sait plus où on en est.
On est passé une certaine heure et quand on n'a pas beaucoup dormi, c'est un peu ça. Et donc, il essaye de retrouver sa mémoire en provoquant les situations. En tout cas, le dernier bout de mémoire qui se rappelle, c'était dans un café plutôt, en mangeant un certain plat, en écoutant une certaine chanson. Donc c'est une une situation qu'il essaye de provoquer de manière à essayer de se faire un déclic et de retrouver sa mémoire. Manque de peau, les choses vont pas se passer comme prévu. Et là, il y a un espèce de regroupement de la mort qui tue. C'est-à-dire qu'on a l'IM, l'Hydra, Secret Empire, Cyber Ninjas, Legion of the Living Lightning, Militia Men, Son of the Serpents, Black Choppers, Trenchcoat Mafia et l'Inquisition.
Donc, alors il y en a même dans l'eau que je ne connais pas.
Il y a des nouveaux. Il y a deux, ou trois.
Et vous, auditeurs, vous allez devoir nous faire la liste complète, au fait, des gens qui font partie de chacune de ces organisations à partir de maintenant.
Je te dirai pas besoin, je t'expliquerai pourquoi à la fin de la review. Pas besoin de faire la liste. Donc toutes ces organisations ont pour ordre de tuer Taskmaster, puisqu'il y a une énorme prime à la clé, et donc ils veulent tous le tuer.
Mais pourquoi ? Ah oui, mais lui ne sait pas.
Mais lui s'en rend compte, voilà, il sait pas pourquoi, justement. Et c'est ce qu'il a envie de découvrir. Pourquoi tout le monde veut le tuer ? Pourquoi tous ces gens qu'il a entraînés veulent le tuer ?
Ce qui est totalement inutile, puisqu'il ne s'en rappelle plus.
Ben, il va essayer de s'en rappeler.
Oui, mais les gens qui veulent le tuer ne savent pas qu'il ne s'en rappelle plus.
Non, ils ne savent pas, non.
Oui, sinon ils veulent
le tuer. S'ils veulent le tuer, je vais pas révéler pourquoi ils veulent le tuer, on l'apprend à la toute fin. Et lui aussi le découvre à la toute fin. Pourquoi ils ont envie de le tuer. Et là, il est
parce qu'il a révélé à tout le monde la fin de Lost avant que ce soit diffusé.
Donc il est dans une situation, il est dans la merde. Quoi. Il est dans
oui,
la merde.
Là, oui. Vu ce que tu m'en dis, effectivement, on pourrait difficilement faire pire.
Moi, j'ai trouvé ça vraiment pas mal fait. Les dessins sont assez particuliers, mais collent bien à l'ambiance. Il y a un petit côté un petit peu dark dans les dessins, un petit peu anguleux et qui correspondent bien. Il y a une ou deux scènes, enfin, il y a une scène de combat notamment, quand tout le monde débarque. Parce qu'en plus, le pire, c'est qu'ils ont eu un horaire à partir du moment où la chasse est ouverte. Et donc, oui. Ils lui tombent tous dessus en même temps. Dans le café dans lequel il était. Donc, c'est assez énorme.
Et, d'accord. Au moment où il voulait reproduire,
au moment où il voulait reproduire le truc, quoi.
Est-ce que c'était du poisson au moins qu'il avait dans son assiette?
Non, alors c'était une recette, mais j'ai pas, je me rappelle pas du nom, mais et justement, il demande à la serveuse d'aller voir le chef pour lui noter la recette.
Ah oui.
Parce que il voudrait essayer de ce truc-là, apparemment, va l'aider à se rappeler de retrouver sa mémoire, donc il va essayer de la refaire, quoi.
Et, d'accord.
Il sauve la serveuse, mais du coup, la serveuse est aussi prise en photo et elle est attaquée, elle, de son côté. Donc, elle est ajoutée à la prime. Donc du coup, il va être obligé d'un peu de la défendre. Ce qui n'arrange rien. Et la pauvre, elle a rien demandé, quoi. Et donc, comme je te disais, cette scène de baston, elle est assez énorme, puisque tu vois en fait faire des prises, et donc tu as l'image où tu as Taskmaster en train de mettre un coup de pied, en train de mettre un coup de poing, ou exécuter un saut, et au lieu de Taskmaster, tu as un petit carré avec le personnage dont il utilise la technique. Donc, par exemple, à un moment, on le voit mettre un coup de pied, et on voit juste donc les bras et le pied de Taskmaster, on reconnaît son costume, mais au milieu c'est Shang-Chi.
Ah oui, d'accord. Mmh. Comme dans un jeu vidéo, quoi.
Voilà. Ou un autre, c'est Spider-Man. Un autre encore, c'est Hawkeye quand il utilise un arc. On a Swordsman aussi quand il utilise une épée. Et ça, je trouve, enfin, visuellement, c'était vraiment pas mal, quoi. Franchement, pour moi, c'était vraiment une très très bonne surprise. Il y a vraiment un gros sentiment de je suis dans la merde et qu'est-ce qui va se passer, et j'ai vraiment envie d'aller voir la suite pour voir comment ça va avancer, cette histoire.
D'accord. C'est Taïns, rien du tout. Hein.
C'est vraiment une mini-série sur lui, quoi.
D'accord.
Comme je disais, donc pas besoin de faire la liste de tous les personnages qui ont appartenu à telle ou telle organisation, puisque on a des fiches récap à la fin, en petit bonus, et c'est vraiment pas mal, puisqu'on a grosso modo la plupart des membres importants, des anciens membres importants de chaque organisation, un petit descriptif de leur but d'organisation terroriste, et la première apparition. Et on a quand même deux ou trois organisations qui sont des créations juste pour Taskmaster, notamment les Black Choppers, qui sont des espèces d'extraterrestres sur des motos, façon un peu gang Sons of Anarchy.
Oui. Ils ont des têtes de Roswell.
Un petit peu, ouais, des têtes d'extraterrestres.
Ah, c'est marrant, voilà. Ça.
On a la Trenchcoat Mafia, qui.
Qui me disait rien non plus, d'ailleurs.
C'est des gens de la mafia, tous en impair.
Ah, il faut...
voilà. Qui est donc aussi une création. On sent que Fred Van Dunty se laisse aller avec des organisations complètement folles, quoi.
D'accord. Oui.
On reconnaît bien son style un peu taré.
Ouais.
Donc voilà. Non, franchement, un bon premier épisode. Pour moi, c'est entre le buy et le check it, quoi. Check it si vous êtes pas trop fan du personnage, et moi je vous conseillerais d'essayer parce que parce que ça vaut le coup. J'ai trouvé ça super sympa comme lecture. Et un bail pour ceux qui connaissent le personnage et qui l'aiment bien. Voilà.
Mais je vais le prendre une prochaine fois.
Mais moi, je te le conseille. Franchement, c'est vraiment très sympa.
S'il est toujours dispo, je le prendrai, là, parce que là, tu m'as convaincu.
Voilà. Voilà. C'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine sans
conviction, mais...
Non, j'allais dire sans interrogation comme la semaine dernière où je me disais peut-être que je serais pas là pour le podcast en fonction des horaires et tout. Là, c'est sûr, il y aura pas de problème pour la semaine prochaine. Pas de mail cette semaine, pas de message sur le répondeur. Répondeur, donc je vais rappeler le numéro. Vous pouvez donc nous laisser un message au 09 70 440 497 ou par Skype en ajoutant Comic City et en laissant un message, en appelant Comic City, vous tomberez sur un répondeur et vous nous laissez votre message.
Voilà.
Vous pouvez nous poser des questions, nous laisser un petit commentaire, quoi que ce soit. Vous pouvez aussi, bien sûr, si vous n'avez pas envie de parler, nous laisser un commentaire sur le site. Nous envoyer aussi un mail à l'adresse podcast@comiccity et puis vous retrouvez tout le site sur Facebook, sur Twitter, tous les anciens podcasts sur iTunes. Et puis voilà, hein, je crois que
et j'ai puis oui, mais surtout, dites-vous que si vous n'avez pas envie d'écrire, vous pouvez parler.
Voilà, n'hésitez pas à nous laisser un message.
Donc n'hésitez pas à utiliser ce fameux répondeur, il est là pour ça, il est fait pour vous, enfin voilà.
Et c'est n'importe quoi, magique qui est votre voix.
Oui, ça peut être une question, une réclamation, je sais pas, un conseil, n'importe quoi, ce que vous voulez.
N'hésitez pas. Donc je rappelle, par Skype, vous ajoutez Comic City comme ami, vous laissez un message, ou sur un téléphone normal, vous appelez le 09 70 440 497, et ce n'est pas un numéro surtaxé, c'est un numéro d'appel national classique.
Voilà, ce n'est pas non plus une messagerie de téléphone rose.
Quoique, peut-être qu'on va embaucher Orny Bunny pour nous faire la voix du répondeur. Oui, allô.
Ça pourrait. Oui, mais bah oui. S'il n'y a pas de message, ça se transformera en messagerie de téléphone rose.
Si tu veux parler à Orny Bunny, tape 1.
Voilà. Et si tu aimes bien les poils et tu veux, enfin, plus de poils encore et les barbes, tu peux taper 2 et, pour parler à Steve.
Bien, sur ce, on va se quitter avec le traditionnel mot de la fin de Bunny. J'espère qu'on a préparé un cette semaine.
Oui, mais non, en fait, j'en ai pas préparé. Mais on me l'a donné.
Ah, très bien.
Et donc ce sera Bazinga.
Ah ben oui, mais Bazinga, mais tu n'as pas regardé Big Bang Theory, c'est pour ça.
Oui, non mais voilà.
Regarde Big Bang Theory, tu comprendras et tu verras que Bazinga, c'est ultime.
Voilà. Que Bazinga à tous.
À la semaine prochaine. En fait, comme tu sais pas exactement quel contexte utiliser, c'est difficile.
Si c'est pour casser les gens, je crois.
Mais c'est quand il fait une vanne en fait. Une vanne qu'il croit drôle. Il regarde les gens droit dans les yeux et fait « Bazinga ».
Oui, bah, le truc, c'est que on devrait en sortir beaucoup des Bazinga.
Oui, enfin c'est plus quand on ment à quelqu'un, qu'on lui fait une vanne en disant « Oh, regarde, en fait, je suis Superman. Non, je t'ai eu. » Voilà, c'est un « je t'ai eu », en fait.
D'accord.
Voilà. Et si vous ne l'avez pas encore fait, regardez Big Bang Theory, c'est magnifique. Pour tous les gros geeks fans de comics comme nous, voilà, les références sont nombreuses et on les voit souvent dans un comic shop. Voilà, donc ça laisse un blanc, c'est terrible.
Mais du coup, ça ne laisse pas le mot de la fin à la fin. Donc,
et donc,
Bazinga,
bah, replace-le, allez. Voilà.
Bazinga, et puis ciao, allez.
À bientôt.
À plus.